France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, la science du changement de camp. Épisode 6, Jacques Chevalier passe le Rubicon. Le 2 mai 1962, une explosion ravage le port d'Alger. C'est le résultat d'un attentat de l'OAS qui a provoqué la mort de 60 personnes et fait au passage 300 blessés. L'organisation terroriste pro-Algérie française sait qu'elle a perdu la partie depuis que les accords d'Évian ont été signés le 18 mars. Mais elle ne compte pas en rester là et décide de pratiquer avant de partir la politique de la terre brûlée.
Quand la voiture piégée a explosé sur le port devant le centre d'embauche des dockers, c'était l'heure où une longue file de musulmans, descendus pour la plupart de la Casbah, attendait devant les guichets du centre. À l'intérieur du bâtiment, un millier de musulmans, à l'extérieur, 200 à 300, dont beaucoup étaient accompagnés de leurs enfants. C'est devant cette foule de travailleurs misérables que la voiture piégée a explosé. Après l'explosion, c'était un spectacle de désolation, des blessés innombrables, allongés pêle-mêle dans des mares de sang. En même temps, une vive effervescence gagnait toutes les rues de la Casbah. Sur les lieux mêmes de l'attentat, un Européen a été tué. Il s'agit d'un homme de 40 ans, pétrolier à Sim Es Saoud. Il passait en voiture peu après l'explosion. Il a été arrêté, tiré de sa juve à 4 et poignardé. Au moment où explosait la voiture piégée au centre d'Alger, rue Charles Vallin, un groupe de musulmans qui descendait vers le port également a été mitraillé par les occupants européens d'une voiture. 4 ont été tués, 4 autres blessés.
Après ces attentats, la tension à Alger est extrême. En réaction à l'explosion, les combattants algériens du Front de Libération Nationale s'apprêtent à descendre sur les quartiers européens avec l'intention de venger leurs morts. Ils sont environ un millier, les armes à la main, et n'attendent qu'un seul mot de leurs responsables pour agir. Un homme pourtant va empêcher le massacre. Il s'agit de Jacques Chevalier, l'ancien maire de la ville, qui va faire en sorte qu'Alger ne brûle pas durant ces semaines de chaos. Lui, l'ancien militant des croix de feu du colonel de la Roque, le cadre de l'administration coloniale qui avait débuté sa carrière sous Vichy, l'homme de la droite, sera celui de la réconciliation entre les deux camps, celui qui choisira l'Algérie algérienne. Ce Français qui a tout du colonial est en effet tombé amoureux de ce pays au point de renoncer à faire triompher le camp auquel il appartient, un triomphe qui de toute façon ne pourrait être qu'en trompe-l'œil. C'est ainsi qu'il parvient à réaliser cet exploit, mettre autour d'une même table les deux camps irréconciliables. Lui en sera ton gré ? En apparence oui, mais en apparence seulement. Bien des années plus tôt, en 1921, un Jacques Chevalier de 10 ans découvrait pour la première fois l'Algérie. Il arrivait des États-Unis avec sa mère américaine et son père français, issus d'une famille installée dans la colonie française depuis la fin du 19e siècle. Les chevaliers ont fait fortune en fabriquant des tonneaux, à une époque où tout ce qui est liquide s'expédie dans des fûts et leur entreprise est devenue la première tonnellerie de France. Dans cette famille aisée, de ce qu'on n'appelle pas encore les pieds noirs, on pense politiquement très à droite. Dans son enfance, ce qu'il entend dire par son entourage est que les indigènes sont heureux de l'apport de la France, des routes, de la distribution de l'eau, de la mise en valeur des terres. Ils ont presque tout comme nous, disent les colons autour de lui. Et forcément, c'est aussi ce que pense le jeune adolescent. À 23 ans, Jacques Chevalier s'engage en politique dans le Parti social français, hérité des Croix de Feu, un mouvement de droite extrême qui comporte dans son programme un volet social que l'on peut qualifier de paternaliste. La section algérienne de ce PSF compte beaucoup de sympathisants fascistes et antisémites. Mais il prône aussi un rapprochement entre les communautés algériennes et françaises et rêve d'un pays où, je cite, « le soir, quand le muezzin appellera ses frères à la prière, plus d'un chrétien fera son signe de croix », ainsi qu'on peut le lire dans un document qui fixe la doctrine du parti. À 26 ans, Chevalier est élu au conseil municipal d'El Biar, dans la banlieue d'Alger, sur une liste donc du PSF. Voilà qu'il se lance en politique. L'année d'après, c'est la guerre et il ne choisit pas vraiment entre De Gaulle et Pétain. Il faut dire que l'Algérie, c'est loin du conflit. L'Algérie française, pour lui comme pour l'immense majorité de ses compatriotes, est une évidence.
Un parfum d'orangeur
Mehdi Moraz, vous êtes professeur d'histoire-géographie, spécialiste de l'Algérie contemporaine, et vous signez le chapitre consacré à Jacques Chevalier dans le livre « Changer de camp » des éditions Novice. Alors de toute évidence, pour Jacques Chevalier, durant sa jeunesse, l'Algérie, c'est la France.
Clairement, l'Algérie, c'est la France. C'est la France où est installée sa famille depuis 1884, où il y a fait ses études, et il a l'intention de s'inscrire dans une vie politique où l'engagement doit être politique avant tout, puisqu'il s'écarte assez rapidement des activités de tonnellerie qui avaient justifié le retour auprès de la famille en Algérie alors qu'il a vécu aux États-Unis.
Alors vous dites que l'une des choses qui le conduisent à militer pour le PSF, parti d'extrême droite, c'est donc non seulement une tradition familiale, mais c'est aussi un anti-bolchevisme viscéral.
Clairement, il se définit comme anti-marxiste et c'est ce qui va fonder son engagement. Alors il est nationaliste dans la tradition familiale, conservateur, pleinement conservateur et marqué par un conservatisme chrétien. Mais c'est l'anti-marxisme qui fonde son engagement auprès du PSF parce qu'il considère que le PSF est à même de protéger la nation du danger marxiste.
Alors, quelle est son action en tant que maire d'Elbiar ? Elbiar, c'est une petite localité près d'Alger. C'est là qu'il commence en politique dans sa vingtaine.
Oui. Alors, clairement, il est un représentant de ces ultras de la colonisation, sûr de son fait, parce que c'est eux qui apportent à la civilisation, c'est eux qui ont vocation à diriger le destin de l'Algérie, parce que ils ont cette connaissance, cette science, ce pouvoir qui leur revient et qui amène à être ceux qui vont faire fructifier cette terre ou les indigènes, donc à suivre le mouvement en quelque sorte.
Au début des années 50, un tournant s'opère chez Jacques Chevalier qui prend un virage libéral et favorable à l'égalité entre colons et musulmans. Il écrit: comme d'autres, j'ai connu et fréquenté un temps le clan de ceux qu'on a désignés depuis comme celui des ultras. Tout ce qu'ils disent et pensent encore, je l'ai à un certain moment partagé, dit, pensé, jusqu'au moment où, à explorer de toutes parts le problème, j'ai compris ce qu'il était vraiment, un problème simplement humain. Du jour où j'ai pris conscience de cette réalité, j'ai réformé tous mes jugements. Dès cet instant, contre vents et marées, sans souci de l'injure et de l'injustice, j'ai suivi le chemin du cœur qui, en Algérie, est aussi celui de la raison. Mehdi Moraz, comment on peut expliquer ce premier retournement de Jacques Chevalier ?
Alors, sa vision du monde, elle est mise en tension en considérant sa foi chrétienne, son engagement chrétien. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il a milité au PSF. Il n'a jamais été antisémite, par exemple. Il y a une ouverture d'esprit chez lui et il était même soutenu par la communauté juive d'Algérie, soutenu par les différentes communautés, au motif que c'était un homme de conviction, de conservatisme certes, mais en même temps d'ouverture. Et cette tension intérieure l'amène aussi à s'ouvrir aux autres avec le souci de servir le bien public, servir les affaires de la cité dans toute sa diversité, en quelque sorte.
Donc l'ouverture tant qu'elle ne va pas jusqu'au bolchevique, parce que il y a aussi cette peur toujours que, au fond, les musulmans algériens ne deviennent des forces d'extrême gauche, et au fond, c'est ça qu'ils redoutent par-dessus tout.
Alors la découverte qui est sienne, c'est de se rendre compte que le monde musulman, le monde algérien musulman, en tout cas, a changé et qu'il y a un éveil des consciences et une organisation politique. L'offre politique en Algérie se diversifie et n'est plus simplement dans la prétention à l'égalité des droits, mais elle est plutôt dans une démarche ou d'autonomie, voire d'indépendance, si on doit considérer l'UDMA, portée par Ferhat Abbas, ou le PPA-MTLD de Messali Hadj. Et donc cette nouvelle offre politique, alors que le marxisme se développe en parallèle, fait peur à Chevalier et l'amène, lui, à déplacer le curseur de ses convictions pour être dans une démarche d'ouverture.
Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiefenfeld, au cours duquel son mari fut tué.
En novembre 1954, éclate la Toussaint Rouge, une série d'attentats perpétrés par le FLN que l'on considère rétrospectivement comme le début de la guerre d'Algérie. Or, pour le gouvernement français, il n'est toujours pas question d'indépendance en Algérie, et c'est ce qu'illustre une célèbre déclaration du ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand.
Voici qu'aujourd'hui, par la volonté de quelques-uns, un nouveau drame atteint les trois départements d'Algérie. Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus, ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l'Aurès ? Ils venaient apporter aux enfants algériens les leçons d'une vieille et haute culture, en même temps que les richesses d'un cœur fraternel. Que cherchaient donc leurs assassins ? Voulaient-ils aussi, en abattant le caïd de Mchounesh, Ben Hadj Sadok, qui retournait à son poste de responsabilité, crier leur hostilité contre les anciens combattants de l'armée, ces anciens combattants qui fournissent tant de cadres courageux et utiles à l'administration ? Qu'a-t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d'un casernement ? Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies, ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
Mehdi Moraz, étonnante archive tout de même de François Mitterrand.
Une étonnante archive qui dit son temps, qui dit l'engagement du ministre de l'Intérieur de l'époque à préserver l'unité nationale en considérant le modèle original de la conquête de l'Algérie, qui est une colonie de peuplement. C'est le seul cas où on considère qu'il y a une continuité. L'Algérie est organisée en départements et la Toussaint Rouge n'est perçu que comme un soubresaut de l'histoire et en aucun cas on comprend les ressorts du mouvement indépendantiste qui la soutient. La bascule dans la guerre d'Algérie n'est pas du tout saisie et tout le monde pense que c'est qu'un soubresaut comme il y avait eu Sétif en 1945. Ça serait que la répétition d'un événement de ce type et la répression pourrait ramener à la raison ces énervés indépendantistes du FLN.
Mais quand même, on ne reconnaît pas celui qui deviendra ensuite président de la République dans ce discours, au fond, très à droite. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de camp, tout de même, de François Mitterrand, quand on entend cette archive et quand on entend ce qu'il dira ensuite ?
C'est clair qu'il aurait pu faire partie des personnalités à étudier en considérant les différents changements de camp qui caractérisent la personnalité de François Mitterrand. Dans le cas présent, il fait partie de ce courant conservateur traditionnaliste d'une appréhension de l'ordre tel que la République le faisait respecter dans les colonies.
Au moment de cette déclaration, Chevalier, lui, est devenu maire d'Alger. Comment est-ce qu'il est parvenu à cette très haute fonction ?
Alors, il a gagné dans les urnes, justement, en refusant le marxisme, puisqu'il y avait une liste communiste qui s'opposait à lui, et lui, donc, essaye de regrouper les différentes composantes, aussi bien libérales que conservatistes, qui ont pu marquer la scène politique algéroise. Et donc, il accède par l'élection en 1953 au poste de maire d'Alger, avec le souci toujours d'être celui qui peut rassembler pour éviter justement cette conjonction des luttes entre communisme et indépendantisme.
Et donc c'est là où il se lance dans une grande politique sociale à destination des plus défavorisés d'Alger, indépendamment de leur communauté.
Alors au départ, il se veut maire bâtisseur pour s'adresser d'abord à sa clientèle première, c'est-à-dire les Européens qui ont fait son élection. Et en se lançant dans cette politique sociale et de bâtisseur, il se rend compte que Alger a vu arriver avec la guerre de plus en plus de populations déplacées qui vont grossir les effectifs des bidonvilles et qu'il faut lutter contre cette paupérisation de la ville. Donc il se veut maire bâtisseur, mais pour l'ensemble des composantes, espérant par là même essayer de gagner la population au projet d'une Algérie algérienne pour l'ensemble de ses habitants.
Parmi les actions de Chevalier, maire d'Alger, il y a donc cet engagement pour loger les plus pauvres. Il fait appel à un architecte iconoclaste, Fernand Pouillon, à qui il confie la construction de trois cités HLM, Diyar es-Saada, la cité du bonheur, Diyar el-Massoul, la cité de la promesse tenue, ainsi qu'une troisième appelée en français Climat de France.
La date du 3 octobre 1955 est à marquer d'une pierre blanche dans la lutte engagée par la municipalité d'Alger contre le taudis et en faveur du logement. Pierre blanche, certes, et même innombrables pierres blanches, qui s'érigent désormais sur les hauteurs du Clos Salambier à Alger, face à l'immensité marine, pour accueillir 1500 foyers, 1500 familles qui vont connaître le bonheur de vivre dans une cité merveilleuse, Diyar el Massoul, la cité de la promesse réalisée. C'est à 15h30 cet après-midi que Monsieur le ministre Jacques Chevalier, député maire d'Alger, président de l'office public des HLM, entouré de son conseil municipal et d'un public considérable, a accueilli Monsieur Jacques Soustelle, gouverneur général de l'Algérie, venu trancher le ruban symbolique donnant accès à la cité nouvelle. Monsieur Jacques Chevalier cite Saint-Exupéry, qui disait des hommes, « Force-les de bâtir ensemble une tour, et tu les changeras en frères. » Le député maire d'Alger ajoute, « Faisons bâtir aux gens de ce pays beaucoup de tours et beaucoup de cités. » Et il enchaîne,
« Faisons les leurs bâtir ensemble, et la grande cité, la vraie cité pacifique et fraternelle dont nous rêvons, s'édifiera alors d'elle-même. »
Mehdi Morras, ce que signifie cette archive pour vous ?
La notion de service public, servir le public au sens noble, en se mêlant des affaires de la cité, mais pour répondre aux besoins de ses habitants. Et c'est le témoignage de l'engagement sincère d'un homme qui a la volonté de construire en Algérie, à Alger, la ville dont il veut faire grandir l'aura, en quelque sorte, l'unité d'une population qui se rencontre.
Est-ce que d'extrême droite, il est passé à gauche, selon vous ?
Alors, d'un conservatisme très marqué à droite, il est sans doute passé dans une posture beaucoup plus libérale. D'aucuns le dénonce comme étant d'un libéralisme révolutionnaire. Alors, étant anti-marxiste, il est difficile de le taxer d'un gauchisme absolu, mais ses positions sont à l'opposé de sa clientèle première.
Est-ce qu'il était apprécié des musulmans aussi ?
Clairement. C'est là où c'est assez remarquable, c'est qu'il s'est voulu le maire de tout le monde. Et il vivait déjà à El Bihar, sur les hauteurs d'El Bihar, dans une ferme forteresse, le Borj, ouvert aux populations. C'est-à-dire qu'on venait trouver audience auprès du maire, on venait essayer de trouver de l'emploi, essayer d'améliorer la situation des habitants, s'inquiéter de la situation de telle ou telle personne qui aurait été arrêtée, et donc faire en sorte que son entre-gens permette d'obtenir qui des nouvelles, qui une libération. Donc il avait cette action de proximité avec la composante indigène de la population algérienne qui était remarquable et qui a fait sa popularité. Et le fait d'être devenu un maire bâtisseur a fini d'en faire le maire dit des Arabes ou le maire Achéchia, puisqu'il était ouvert à cette composante de la communauté algéroise.
Mais tout en étant le maire donc dit des Arabes, est-ce qu'il était aussi considéré comme le maire des Européens ou est-ce que ce changement de camp, entre guillemets, était sans retour ?
Alors le changement de camp, il a été progressif puisque il ne faut pas oublier qu'on est dans une élection à double collège où seuls les Européens pouvaient participer aux élections. Donc son électorat, c'est d'abord un électorat européen. Ce sont les Européens qui le choisissent comme maire. Il est donc apprécié des Européens parce que tout d'abord, il est soutenu par les tenants de la colonisation. Il est perçu comme étant un homme habile, capable de défendre les intérêts de la ville et des Européens. Donc sa première clientèle est celle-ci. Son ouverture d'esprit, ses choix audacieux de faire cohabiter au sein de sa municipalité des élus indépendantistes qui n'ont pas voix au chapitre mais qui ont voix consultative pour justement traiter ces questions sociales, l'amène à être iconoclaste.
En 1957, les tensions entre communautés se font de plus en plus fortes, la bataille d'Alger ensanglante, la capitale algérienne.
Ici Alger, RTF. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, le colonel Godard, commandant le secteur Alger Sahel, et les officiers qui ont participé au nettoyage de la vieille ville ont évoqué les circonstances de ce nouvel épisode de la lutte contre le terrorisme. Un officier du 1er régiment étranger de parachutistes, le colonel Guiraud, a raconté comment ces hommes ont préparé et mené l'attaque de la cachette où Ali Lapointe et ses complices vivaient terrés depuis plusieurs semaines.
À la suite d'un certain nombre de renseignements, sur le détail desquels je passerai, il était possible de déterminer avec de plus en plus de précision l'emplacement où se cachait Ali. Après avoir occupé la maison, il était possible de réduire ce repère. Pour y accéder, il n'y avait pas plusieurs solutions. Il fallait ou bien que les rebelles sortent, ou alors aller les chercher. Et comme ils n'ont pas voulu sortir, il a fallu aller les chercher, et il fallait pour cela percer les parois de la cache. Ceci a été fait à l'aide d'un pétard, mais l'explosion qui en a résulté est nettement disproportionnée à la charge, et due certainement aux explosifs qui se trouvaient à l'intérieur, a entraîné des dévolutions assez considérables.
Mais dis-moi, quelle a été l'importance de la bataille d'Alger dans la vie de Jacques Chevalier ?
Alors, la bataille d'Alger entre janvier et octobre 1957 est finie de ruiner les espoirs dans son esprit d'un maintien de l'Algérie française. Il considère que la bataille d'Alger révèle la fracture définitive entre les différentes entre la communauté française et l'Algérie, et que donc une séparation doit se faire. Simplement, il faut trouver les modalités de cette séparation pour que les Français d'Algérie, les Européens d'Algérie, puissent prendre place dans cette Algérie nouvelle à construire. Et il se veut homme de dialogue, mais il a conscience que cette main tendue pour essayer de préserver l'essentiel est presque vouée à l'échec. Même s'il se refuse, il a toujours une parole performative pour essayer de construire cette Algérie de demain.
Et même s'il réussit à mettre autour de la table, à certains moments clés, comme on l'a déjà vu, les partisans des deux camps.
C'est là où il garde une force de conviction remarquable et qui doit être saluée, c'est que se dire, il y croit toujours. Et cette capacité qu'il a eue à faire le lien entre les membres de l'OAS et le FLN, et tout à son honneur, parce que alors qu'il avait été retiré de tout pouvoir par les militaires de l'armée française, et notamment Salan, qui a dirigé ensuite l'OAS, il est en capacité toujours d'être un homme de dialogue, un homme de réconciliation, en tout cas de médiation, et mettre les gens autour de la table pour éviter le bain de sang dans le cadre de cette ville qu'il aime tant.
Oui, parce que il faut dire que le général de Gaulle, quand il revient au pouvoir le 13 mai 58, va écarter Chevalier de la mairie d'Alger. Pour quelle raison, Mehdi Moraz ?
On considère qu'il est gênant parce que ses prises de position sortent du rang, en quelque sorte. Que cette volonté de dialogue, la défense des indépendantistes, l'idée d'une Algérie algérienne avec toutes ses composantes, n'est pas dans le cadre de cette formule célèbre de « je vous ai compris » qui paraît dire aux Européens d'Alger que la France va préserver son joyau impérial. Et donc, il est une personnalité trop singulière, qui connaît trop de monde, qui essaye d'intercéder pour les anciens élus du MTLD qui ont été arrêtés, qu'il dénonce par ailleurs la pratique de la torture, et qui reste ouvert à tous. Donc c'est cet engagement qui fait qu'il ne peut plus rentrer dans les plans gaullistes, quand bien même il a cheminé au milieu des gaullistes pendant un temps, et de Jacques Soustelle en particulier.
Le 1er juillet 1962, jour du référendum en Algérie pour ratifier les accords d'Évian, Jacques Chevalier répond à une interview à ce sujet, lui qui est à présent en retrait de la vie politique à Alger.
Tout à l'heure, il y a une heure exactement, après un deuxième essai, puisque depuis ce matin, toute ma famille et moi, nous sommes ici six à voter à El Biar, nous sommes présentés pour voter. Et après ce deuxième essai, dans une foule nombreuse, j'ai enfin pu passer pour ma femme, mes enfants et moi déposer notre bulletin de vote.
Et vous avez voté oui, bien sûr.
Je l'ai fait d'ailleurs de façon fort ostensible, en s'embrassant par l'isoloir et en mettant un oui dans mon enveloppe.
Quelle signification personnelle attachez-vous à ce vote ?
Eh bien, comme signification, je pense que l'Algérie s'est enfin retrouvée. Que tous les gens de ce pays, qui jusqu'à présent... qui, les années précédentes, du moins, avaient vécu en bonne intelligence et qui, à un moment donné, s'étaient affrontés, eh bien, viennent de se retrouver et, ensemble, vont créer un grand pays moderne avec l'enthousiasme que nécessite une pareille création.
C'est évidemment pas du tout ce qui va se passer. Les communautés ne se sont pas retrouvées, évidemment, entre Européens et musulmans, c'est le moins qu'on puisse dire.
Clairement. Si son évolution renvoie à cette Algérie révélée dans la difficulté sociale, cette Algérie retrouvée qu'il espérait et qu'il appelait de ses voeux n'a pas été au rendez-vous puisque la fracture a été consommée. Quand bien même, il espérait le maintien d'une communauté européenne en Algérie, dans cette Algérie nouvelle à construire.
Donc pour lui, c'est le moment vraiment de choisir son camp et il va choisir l'Algérie.
Il choisit de devenir algérien, d'être pleinement algérien parce que c'était sa terre, parce qu'il y était attaché, parce que ses aïeux y étaient enterrés, qu'il voulait demeurer à El Bihar et être utile à cette Algérie. Il espérait un engagement, la possibilité d'un engagement politique au sens noble du terme, suivant une acception pleine du terme, pour pouvoir aider à l'édification d'une Algérie nouvelle avec l'ensemble de ses composantes.
Mais est-ce que le nouveau gouvernement en place à Alger avait envie que celui qui avait été le maire des Européens, finalement, reprenne des fonctions politiques dans ce pays qui, malgré tout, l'avait accepté, ce nouveau pays, cette nouvelle Algérie?
Alors, il a obtenu la nationalité algérienne, il a opté pour la nationalité algérienne, il a essayé d'y trouver sa place. Il a occupé des fonctions honorifiques de vice-président du port autonome d'Alger.
On lui a donné comme ça un jouet.
En quelque sorte, on le place dans une fonction honorifique. Et c'est tout. C'est tout parce que le FLN est dans une démarche de captation de la rente mémorielle et du prestige du combat. Et le récit tel que le FLN l'écrit renvoie à un peuple, une nation. Et c'est comme ça qu'il y a que cette captation interdit de mettre en avant des personnalités même fortes comme Jacques Chevalier et par-delà la richesse et la sincérité de son engagement.
Dès lors, Jacques Chevalier va vivre entre Alger et la France, même si c'est à l'Algérie qu'il est réellement attaché. Il va tenter des opérations de développement du tourisme aussi en Algérie, même si ça ne décolle pas vraiment. Et puis, il est malade quand même, Mehdi Moraz, et ça va beaucoup marquer les dernières années de sa vie. Il va pas mourir non plus très très âgé.
Non, il va mourir assez jeune, puisqu'il meurt à l'âge de 60 ans, rattrapé par un cancer. Il est soigné en France et c'est là où la fin de sa vie est assez singulière, dans la mesure où il est soigné en France, mais tient à être à mourir sur sa terre, la terre qu'il a choisie. Et donc, ce premier apatrié d'Algérie, en quelque sorte, là où d'autres sont des rapatriés d'Algérie, meurt en Algérie en 1971, à Alger.
Quel bilan vous tirez-vous de cette volte-face, si on peut appeler ça une volte-face ?
Alors, c'est une volte-face remarquable dans le sens où c'est faire le choix de sortir de son rang, de sortir de son camp, là où il y aurait une forme d'assignation à résidence identitaire, en quelque sorte. Être le maire des Européens, des ultra-européens, devait vous enfermer dans une forme de fuite en avant. Il aurait été presque plus logique pour lui de basculer du côté de l'OAS, par exemple, et d'un jusqu'au-boutisme. Là où l'attachement à la terre, cette rencontre avec une Algérie révélée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'amène à épouser un parcours très singulier qui amène une certaine sympathie.
De son point de vue à lui, quel bilan peut-on en tirer ?
Une déception. Il éprouve une réelle déception. Le fait d'être relégué à un rôle de second rang, de faire valoir dans le cadre de l'Algérie algérienne, et même ses projets qu'il a essayé de caresser avec Fernand Pouillon, l'architecte, pour développer le tourisme dans son pays auquel il était si attaché, ne mène à rien dans la mesure où l'Algérie fait le choix d'un tourisme politique, en quelque sorte, accueillant les combattants Black Panthers, les combattants de l'ANC ou les combattants palestiniens. Le tourisme n'est pas du tout le choix du développement, ce qui nourrit par ailleurs une déception pleine.
Si Jacques Chevalier a en effet changé de camp en se ralliant à l'Algérie algérienne, on peut aussi considérer qu'il n'a pas dévié de trajectoire, car c'est à la terre de ce pays qu'il est resté toujours fidèle et non à ceux qui l'a gouverné. C'était La science du changement de camp, une série en 6 épisodes à retrouver dans son intégralité sur le site et l'application Radio France. Proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, prise de son Ruben Carmizine, mixage Manon Houssin.